With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dans ces dépressions-là, on rumine son passé, son futur. Hier, j'ai mangé quelque chose, puis j'ai vu que c'était pas sur la liste des choses qu'on pouvait manger quand on est enceinte, donc c'est la catastrophe. Ça peut prendre des proportions très importantes. En fait, la maternité, c'est un deuil. Mais c'est un deuil, on renonce à beaucoup de choses pour quelque chose qui est présenté comme sublime.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode spécial sur le thème de la dépression anténatale. Bonjour Françoise Guérin.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Vous avez travaillé en unité mère-bébé. Maintenant, vous travaillez en libéral à Lyon.
Oui.
En parallèle de vos activités cliniques, vous êtes auteur de romans et de nouvelles. Vous avez publié plus d'une dizaine de livres, dont deux portent sur la maternité, donc Maternité aux éditions Albin Michel et On noie bien les petits chats aux éditions Erol, qui est le dernier qui est sorti il y a quelques mois.
Oui.
Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne des femmes qui, dès le début de leur grossesse ou dans les mois qui vont suivre, vont se sentir extrêmement mal, être parfois en grande souffrance. Cette souffrance est encore peu écoutée, repérée et pourtant elle existe. Devenir mère, même quand on l'a choisie, peut être extrêmement difficile, ce qui est encore peu imaginable, pensable. Qu'est-ce que la dépression prénatale, anténatale ? Quels en sont les symptômes ? Pour quelles raisons est-elle encore si peu connue ? Quelles en sont ses causes ? Et surtout, comment apaiser, soigner, pour aider ces femmes à accueillir dans les meilleures conditions possibles leur bébé ? Autant de questions que nous allons aborder avec vous, Françoise. Tout d'abord, Françoise, qu'est-ce que c'est que la dépression prénatale ?
Alors, la dépression prénatale... on considère généralement que c'est la dépression qui survient pendant la grossesse, même si on peut élargir au fait que certaines femmes, avant même la grossesse, sont déjà dans un syndrome dépressif. Je pense notamment à certaines femmes qui sont dans des parcours de PMA longs et difficiles et qui peuvent arriver à une grossesse en étant déjà bien ébranlées psychiquement et bien en difficulté. En tout cas, voilà, ce dont on va parler plus précisément aujourd'hui, ça va probablement être la dépression de la grossesse, dépression anténatale, qui survient à n'importe quel moment de la grossesse chez des femmes qui peuvent ne pas avoir d'antécédents de dépression ou de pathologie psychique.
Du coup, là, dans ce que vous nous dites, Françoise, c'est-à-dire qu'une dépression qui commencerait, par exemple, dans un parcours de PMA, pourrait être considérée comme une dépression prénatale ?
On peut considérer qu'elle est prénatale ou anténatale dans la mesure où elle survient avant la naissance et où elle peut se poursuivre pendant la grossesse. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour une femme qui est dans un parcours de PMA, le fait d'aboutir à une grossesse ne guérit pas nécessairement la dépression de manière automatique. Parfois, ça pourrait même avoir tendance à l'aggraver parce qu'on a tellement attendu ce moment de la grossesse que certaines femmes sont déconcertées par le fait que c'est pas si extraordinaire que ça.
Ce qu'elles avaient imaginé ou attendu.
Ce qu'elles avaient imaginé, projeté en termes de sensations, en termes de représentation. Enfin, pour beaucoup, elles l'avaient tellement idéalisé que quand ça survient, c'est finalement moins, enfin, je sais pas comment dire, moins chatoyant que ça n'était imaginé. Avec, mais on y reviendra peut-être, le fait que quand une grossesse est issue d'une PMA longue et difficile, on la considère en général, c'est un drôle de terme, mais comme une grossesse précieuse, ce qui n'est pas sans pousser un peu le curseur de l'angoisse. Voilà. Et pour ces femmes qui ont eu tellement de mal à devenir enceintes, l'angoisse de perdre ce bébé dit précieux peut être tellement importante que ça peut générer une dépression. Voilà, mais ça, c'est un cas de figure, bien entendu.
Bien sûr. Est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on peut se représenter un peu combien de femmes ça concerne par an en France?
Bon, les statistiques, elles sont toujours un peu vagues. On dit entre 10 et 20%, c'est-à-dire inférieur à la dépression post-natale qui tourne aux alentours de 25%. Mais 10 à 20%, c'est toujours pareil. Les statistiques, elles nous disent pas grand-chose parce que il y a toutes celles qui n'ont pas été du tout dépistées, celles qui n'ont même pas repéré qu'elles étaient en dépression pendant la grossesse, celles qui n'ont pas eu accès à des soins. Donc on ne sait pas, au fond, si ce n'est pas bien supérieur. Un peu comme la dépression postnatale, où quand on les reçoit, on voit bien qu'il y en a beaucoup plus que ce qui est annoncé.
Du coup, dans ce que vous nous disiez là, Françoise, vous énonciez déjà quelques facteurs de risque ou de vulnérabilité. Alors là, vous nous avez bien dit, le parcours de PMA peut être un facteur de risque, en tout cas qui va... apporter de la vulnérabilité, d'autant plus si le parcours a été long et fait de nombreux échecs. Quels peuvent être les autres facteurs de risque?
Alors, il y a des facteurs de risque qui sont liés vraiment à la dimension obstétricale et gynécologique, c'est-à-dire des antécédents de fausse couche, une grossesse compliquée, une grossesse à risque, une grossesse où la mère doit être alitée très, très précocement dans la grossesse, par exemple. C'est-à-dire que celle qui s'était imaginée sortir avec ses copines et montrer son gros ventre et fêter ça, se retrouve sur son canapé pendant que toutes les copines sont au travail et il n'a pas autre chose que des romans et la radio pour se distraire. Voilà, ça fait quand même un peu flancher. Donc, dans la dimension obstétricale, il y a bien entendu tous les antécédents de fausses couches précoces ou tardives, de mort subite in utero, et puis aussi de mort subite du nourrisson. On dit plus subite, d'ailleurs, je crois qu'on dit inattendue. Enfin, elle reste quand même subite la plupart du temps. Ça, ce sont des facteurs qui sont qui rendent en fait la grossesse plus anxiogène. Voilà, pour ce qui est de ces aspects-là, il y a les facteurs, on pourrait dire psychosociaux, c'est-à-dire quand on est isolé avec peu de relations, des familles très éloignées. C'est beaucoup le cas des familles que je rencontre à Lyon. À Lyon, sur le secteur où je suis, il y a beaucoup de gens qui sont pas de Lyon, qui arrivent, qui ont leur famille à Bordeaux et à Quimper, et qui finalement, en dehors du travail, ne voient pas grand monde. Et donc, ce sont des femmes qui sont dans un grand isolement. Par exemple, l'isolement, ça peut être un facteur de risque important. Voilà.
Est-ce qu'une dépression au préalable, alors, même sans la question d'un parcours de PMA, est-ce que des antécédents de troubles psychiques peut être un facteur de risque?
Alors, c'est un facteur de risque pour tous les troubles psychiques du périnatal, périnataux d'ailleurs, je crois. C'est-à-dire que dès lors qu'on a des antécédents, qu'on a eu soit des épisodes dépressifs, soit des épisodes de difficultés psychiques importantes, je dirais comme ça, des beautés, une anorexie mentale, une bouffée délirante à l'adolescence, comme il en arrive quelquefois, des éléments comme ça. On a tout intérêt à consulter avant une grossesse. On a tout intérêt, notamment quand on a un traitement, parce qu'il n'est pas rare que des femmes, pour pouvoir avoir un enfant, arrêtent leur traitement psychotrope. En général, ça tient quelque temps. le temps de mettre en route la grossesse, mais ensuite c'est un peu compliqué. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'on peut accompagner ces arrêts de traitement et qu'on peut, à un moment donné, permettre à ces femmes d'accéder à une grossesse et d'être suivies assez tranquillement, quitte à remettre le traitement après.
Voilà, oui, donc... et puis qu'il y a aussi des traitements qui sont de plus en plus compatibles aussi avec la grossesse, alors qu'il y a cette croyance, voilà, j'ai un projet d'enfant, il faut tout arrêter, alors que non.
Absolument, on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'antidépresseurs qui peuvent être donnés pendant la grossesse, à différents moments de la grossesse, c'est bien documenté, il y a des gens qui s'intéressent à ces questions, donc un médecin qui veut prescrire ou changer un antidépresseur pendant une grossesse, il peut tout à fait trouver les informations nécessaires. Donc ça veut dire aussi que quelqu'un qui était équilibré par exemple par un traitement antidépresseur, c'est dommage d'arrêter le traitement pour engager une grossesse, parce que le risque, c'est d'être mal pendant la grossesse. Or, c'est quand même un peu dommage. Parce que quand on parle de la souffrance dépressive, c'est pas rien, c'est une vraie souffrance. C'est pas... c'est vraiment une souffrance lourde, parfois.
Bien sûr. Et du coup, quels vont être les symptômes, les caractéristiques de cette souffrance? Comment les femmes qui nous écoutent, peut-être, peuvent évaluer si ce qu'elles traversent, c'est de l'ordre... de la dépression?
Alors, déjà, souvent, c'est quelque chose qui arrive de manière un peu insidieuse. Petit à petit. Alors parfois il y a des déclics, des événements déclenchants qui font que qu'il y a un effondrement psychique. Mais petit à petit, on va voir arriver une tristesse importante, prolongée, un peu lourde, quelque chose dont on a du mal à émerger, qui s'accompagne souvent d'angoisses. Alors ça peut être des angoisses qui sont centrées sur la grossesse, l'accouchement, beaucoup, mais aussi sur le bébé et la future mère qu'on va être. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que j'ai pas fait une connerie de faire ce bébé? Moi qui suis ci, ceci, ou tant cela, etc. C'est des choses qu'on entend beaucoup dans les cabinets. Des doutes quant à l'avenir du couple, parce que la grossesse, contrairement à ce qu'on croit, ça ne solidifie pas les couples, ça les fragilise. Donc c'est le moment où peuvent apparaître des premiers désaccords, voire des conflits, voire parfois des violences. Souvent dans statistiquement on le sait, c'est pendant les grossesses que souvent ça démarre, les violences conjugales. Des doutes, des angoisses, parfois des angoisses paroxystiques qui nécessitent de consulter en urgence. Tout ça accompagné d'une grande asthénie. Alors l'asthénie, c'est une fatigue, mais une fatigue qui ne cède pas au repos. C'est pas la bonne fatigue qu'on a quand on a fait une bonne randonnée en montagne avec des copains. Là, le lendemain, on est fatigué, puis après, ça passe. Là, c'est une espèce de fatigue qui rend tout lourd, tout difficile. Le moindre geste devient compliqué. Et ça explique aussi parfois que certaines femmes aient du mal à assumer un suivi de grossesse correct, parce que prendre le métro, monter 3 étages pour aller voir un gynéco, quand on est dans cet état d'asthénie, c'est compliqué.
C'est une fatigue où malgré le repos, malgré le fait de dormir, la femme se sentira toujours aussi fatiguée.
Oui, parce que c'est une fatigue psychique en réalité. Alors évidemment, on la sent dans le corps. Les femmes, elles disent bien, je monte un escalier et puis ça y est. Mais c'est une fatigue psychique qui est prégnante, qui est accentuée par le fait qu'il y a beaucoup de rumination. Dans ces dépressions-là, on rumine son passé, son futur, la moindre chose qu'on fait. Hier, j'ai mangé quelque chose, puis j'ai vu que c'était pas sur la liste des choses qu'on pouvait manger quand on est enceinte, donc c'est la catastrophe. Ça peut prendre des proportions très importantes. Voilà, il y a également des choses qui vont pousser au repli sur soi, autour du corps. Alors, ce sont notamment, ça c'est typique de toutes les dépressions, une absence de désir, une perte du désir. Même des choses qu'on aimait bien faire avant, soudain ça n'a plus d'intérêt, on n'a plus envie de le faire. Et puis une perte du plaisir. Et tous les plaisirs, c'est-à-dire que finalement, une copine vous pousse à aller à sortir pour aller voir le film que vous adorez, et là vous le trouvez fade et vous n'arrivez pas à vous concentrer dedans. Il y a d'ailleurs un trouble de concentration qui est lié souvent à l'angoisse et une fatigabilité psychique. Bon, il y a sans doute tout un tas d'autres symptômes importants. Quand même, il faut bien se souvenir que dans la tristesse, ça peut aller jusqu'à des idées noires et à des pensées suicidaires. Et ça n'est pas à négliger parce que quand même, les idées suicidaires, me semble-t-il, c'est la deuxième cause de mortalité en périnatal, après les accidents cardiovasculaires.
Alors, c'est équivalent, mais en effet, la première cause de mortalité en période périnatale jusqu'au 1 an de l'enfant est le suicide maternel. Tout à fait.
Donc, c'est pas négligeable du tout. Et quand une femme ose dire ses idées noires à quelqu'un, il faut absolument l'entendre dans ces périodes-là. Enfin, dans toutes les périodes, bien entendu. Mais parce que c'est déjà pas facile pour elle de le dire, d'oser le dire.
Oui, justement. Alors, vous nous disiez par rapport aux statistiques, voilà, que peut-être, en tout cas, on peut émettre cette hypothèse que c'est plus que ce qu'on repère parce que beaucoup de femmes n'osent pas en parler. Là, vous évoquez cette question peut-être de la honte. Mais voilà, qu'est-ce qui se joue autour du fait, voilà, que c'est si peu repéré, alors que là, vous nous dites bien quand même que les symptômes sont très forts, envahissants, amènent une souffrance très intense.
Alors, il y a un autre aspect quand même de cette dépression anténatale, et qui est un peu vrai aussi dans la dépression postnatale, c'est qu'il y a une part de ces dépressions qui ne s'expriment pas de manière aussi manifeste, par de la tristesse, du repli, du ralentissement psychomoteur, etc. Et qu'on pourrait mettre sous l'étiquette de dépression masquée. C'est-à-dire que, au fond, le sujet éprouve des affects dépressifs. Il est au bord de l'effondrement, où il est effondré, il n'a plus l'énergie de vivre, mais il met quand même encore en branle ses mécanismes de défense antidépressifs. Et les dépressions masquées, c'est typiquement des femmes qui traversent toute la grossesse en sautillant, en chantant, en ne s'arrêtant jamais. Donc on pourrait dire super, c'est génial, bravo, voilà, ça c'est une grossesse réussie, tout en luttant intérieurement contre des affects dépressifs. Et ces dépressions masquées, elles sont très épuisantes. Et alors elles sont assez typiques parce que quand on les reçoit, ces femmes, pour une raison ou pour une autre, en anténatale ou en postpartum, et qu'on tend des perches, il suffit de pas grand-chose, parfois 2-3 paroles, et alors là, d'un seul coup, les larmes surgissent et alors tout vient. C'est-à-dire que finalement, elles ont lutté pendant des mois pour faire croire à tout le monde et pour se faire croire à elles-mêmes que tout allait bien. Elles luttent intérieurement contre la dépression, mais ça les épuise.
Ouais. Oui, souvent, il y a d'ailleurs une très grande fatigue qui d'ailleurs peut les amener à consulter ou en même temps, elles disent « je suis là, mais je ne sais pas vraiment pourquoi je suis là
». Absolument. Et puis, ces dépressions masquées, elles sont beaucoup à risque d'accouchement prématuré parce que ce sont des femmes qui, voilà, ne se reposent pas, même quand on leur dit « écoutez, madame, là, vous avez des contractions, il faut absolument se poser ». Mais elles disent d'ailleurs, c'est assez typique, elles disent « mais moi, si je me pose, je m'écroule ».
Je ne saurais pas. Il faut être tout le temps dans l'action.
Voilà. L'action, la pensée, etc. Alors pourquoi on les dépiste si peu ? Probablement parce que c'est pas facile de dire qu'on est déprimé pour qui que ce soit. Et alors encore plus pendant la grossesse, qui est ce moment, ce couronnement ultime des femmes. Donc, voilà, c'est des bêtises, mais en tout cas, c'est tellement véhiculé comme ça dans la société, dans les livres, dans les films. Elle est enceinte, tout le monde fait ça, c'est merveilleux, etc.
Un heureux événement.
Un heureux événement, voilà. Et donc, il y a quelque chose là qui empêche, au fond, de dire qu'on n'est pas heureux. Qui empêche de dire qu'on est ambivalent. L'ambivalence, c'est vraiment la caractéristique et de la grossesse et du postpartum. C'est-à-dire qu'on peut être très heureux d'être enceinte, très heureuse d'être enceinte, ou très heureux, père et mère, d'avoir un bébé qui s'annonce, et en même temps se rendre compte que ça va radicalement bouleverser la vie et qu'il faut faire le deuil de notre vie de jeune femme qui, lorsqu'elle sortait du boulot, allait boire un verre avec les copines, qui partait en long week-end dans des festivals, etc. Dès lors qu'il y a un bébé, pendant quelque temps, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'on sort du boulot et vite on court à la crèche et la nounou... ensuite à l'école, etc. En fait, il y a un deuil d'une position psychique dans la vie où finalement on a à s'occuper de soi et de l'autre, du couple, à une position où d'un seul coup, on va d'abord... Là, on peut plus faire... Déjà, dès la grossesse, on peut plus faire ce qu'on veut. voyez, il y a tellement d'injonctions, faut pas manger ceci, faut pas faire cela, faut pas boire ci, faut pas... Vous voyez, donc déjà, ces femmes ont le sentiment que leur corps ne leur appartient plus, et ce n'est que le début, hein, puisque bientôt, le bébé va prendre beaucoup de place dans le ventre, et ensuite dans les bras, dans le temps, dans le coffre de la voiture, enfin, pas le bébé, dans le coffre... Hein,
la poussette, les couches, le maxi-cosy,
machin, voilà. Donc, il y a un deuil. En fait, la maternité, c'est un deuil. Mais c'est un deuil, on renonce à beaucoup de choses pour quelque chose qui est présenté comme sublime. Et ça me fait penser à « Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni ». Voilà, c'est une prière mariale. Oui, il y a quelque chose qui donne l'idée que soudain, la femme, parce qu'elle est enceinte, elle est l'écrin d'un beau bijou. Voilà, un bel écrin, un beau bijou. Sauf qu'il faut pas oublier que dès lors qu'on aura l'écrin, dès lors qu'on aura le bijou, l'écrin, disparaît un peu.
Oui, là, dans ce que vous évoquez, moi, ça me fait penser aux femmes qui peuvent me dire ce sentiment de perte de liberté, en effet, le renoncement à la vie d'avant, à une certaine forme de légèreté, de spontanéité qu'elles disent aussi, qu'elles recouvrent sous ce terme de liberté, et qui est parfois très difficile, en effet, et très en décalage entre ce qui leur avait été présenté, ce qu'elles pensaient qu'elles allaient vivre, et puis ce qu'elles vivent réellement.
Oui, et puis au sein du couple, quelque chose de ce registre-là aussi se vit. C'est-à-dire que finalement, le couple est pris dans toutes sortes d'injonctions. Il faut être de bons parents, soudain, il n'y a plus que ça. Mais alors, les injonctions, c'est encore plus pervers que ça, parce que maintenant, on dit aux femmes qu'il faut qu'elles soient de bonnes mères, mais il faut aussi qu'elles soient de bonnes épouses, et puis qu'elles soient de bonnes femmes...
Qu'elles prennent du temps pour elles, qu'elles prennent soin d'elles.
Qu'elles se fassent belles, qu'elles mettent de la crème, etc. C'est-à-dire que plus on veut faire dans le bienveillant et plus on rajoute des injonctions à n'en plus finir. Donc c'est probablement difficile de dépister un trouble dépressif quand c'est si tabou au fond de le dire. Et puis que ça peut ne pas être entendable par l'entourage, y compris des personnes qui ont traversé ça et qui ont obturé ça, qui n'ont pas envie d'entendre. Alors, j'ai une théorie sur ce truc-là, parce que j'avais déjà, quand j'ai sorti Maternité, qui traite à la fois de la grossesse, mais aussi du postpartum, beaucoup de gens étaient tombés des nues en me disant « Mais maternité, vraiment, vous pensez qu'il y a des dépressions dans le postpartum, d'où ça sort, etc. » Donc j'avais quand même été étonnée, y compris de la part de praticiens. Ma théorie, c'est que, au fond, comme on a tous été bébés, plus ou moins, mais quand même, comme on a tous été bébés, personne n'a envie de songer que la mère qui vous a tenu dans les bras a pu être très mal au moment de la naissance, a pu pleurer, a pu ne pas se réjouir 24 heures sur 24, a pu avoir envie de vous passer par la fenêtre. Je crois qu'on se défend tous de cette image-là qu'on a de la mère bienveillante, des tellement heureuses de pouponner. Alors que dans nos cabinets, on voit bien que ce n'est pas la réalité.
Oui. Certaines femmes disent aussi qu'elles ont essayé de parler, mais en effet, qu'elles ne sont pas entendues, même par des professionnels de santé. En tout cas, là, j'imagine, vous dites à la fois ce qui n'est pas pensable, pas imaginable, et puis la question aussi de la formation des professionnels.
Alors, il y a la formation en termes de théorie, bien entendu, qu'on leur apprenne ces questions-là. Il y a déjà très peu de psychologie et de psychiatrie dans les études des professionnels de santé, d'une manière générale, pas pour tous, bien entendu. Mais il y a aussi la formation au savoir écouter, qui n'est pas si évidente. Et notamment, quand on écoute des choses inquiétantes, le premier mouvement, ça serait de répondre, et répondre pour calmer et pour minimiser ça. Mais non, c'est pas grave, c'est les hormones, ça va passer. Enfin, toutes ces choses-là qui sont dramatiques quand quelqu'un fait l'effort d'essayer de dire ce qu'il ressent, parce que c'est comme si, au fond, sa parole n'avait pas de place, n'était pas entendable par l'autre. Donc, en général, ces femmes se taisent. Et c'est vrai qu'on devrait, dans les études médicales et paramédicales, apprendre aux gens à recevoir ce qui est dit sans vouloir nécessairement trouver une réponse. Parfois, la principale réponse, c'est de dire, ben oui, j'entends ce que vous dites, et ça, c'est très difficile à vivre. Mmh. Ensuite, évidemment, on laisse pas les gens comme ça sans rien. On cherche avec eux ce qui peut les aider, etc. Mais les phrases telles que « ça va passer, vous inquiétez pas, tout va aller bien », ce sont des phrases un peu dramatiques, au fond. Mmh. Elles sont là qui minimisent la souffrance de l'autre, alors que quelqu'un qui a fait l'effort de parler, c'est que probablement c'est le moment pour lui d'être entendu.
Ouais. Oui, et puis toutes ces inquiétudes de dire, d'être perçue comme une mauvaise mère, déjà, et que ça vienne renforcer aussi ses croyances ou ses pensées que la femme peut déjà avoir sur elle-même.
Mmh. Oui, alors, on ne l'a pas dit, mais dans les facteurs de risque de dépression anténatale, il y a justement toutes ces idées que les femmes ont pu se forger sur elles-mêmes, que chacune a pu se forger sur elle tout au long de son histoire, dès l'enfance, dans la traversée de l'adolescence, en lien avec sa famille, ses études, etc. Et donc, on n'arrive pas tous à la maternité avec le même bagage, avec les mêmes images de soi. Et certaines ont pu avoir des échecs à tel ou tel endroit de leur existence qui leur a fait penser qu'elles seraient pas à la hauteur. Certaines ont cette idée-là d'elles-mêmes. Et puis, dans les antécédents familiaux, quand on a eu affaire soi-même à une mère très difficile, par exemple, ou à une mère dépressive ou délirante, enfin, comme c'est un peu le cas dans les livres dont on parlait tout à l'heure, c'est difficile de se construire une image de soi positive et une image comme mère. Donc on a affaire à ce moment-là, dans le temps de la grossesse, souvent à la résurgence de ces idées-là péjoratives sur soi-même. Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je vais pas répéter les choses? Vous savez, il y a des phrases que vous devez connaître bien qui disent qu'une mère, un enfant maltraité va être maltraitant à son tour. Ça a peut-être une réalité un peu statistique par certains aspects, mais c'est pas la réalité, en fait. On peut tout à fait enrayer ça. Mais il n'empêche que ce type de phrase-là va être d'un très grand poids chez une femme qui a vécu des choses difficiles dans l'enfance, au moment où elle traverse la grossesse, parce qu'elle est là, dans ce temps de maturation psychique, sur le point, au fond, de se construire. Pas seulement comme mère qui tient le bébé dans les bras ou dans le ventre, mais comme mère psychique.
Alors, du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la mère psychique? Et puis, pourquoi... qu'est-ce qui fait que quand une grossesse est désirée, que c'était un projet, que ça arrive, que ça devrait être un heureux événement, eh ben, les choses ne se passent pas ainsi, et puis la souffrance apparaît?
Alors, quand même, il ne faut pas affoler les auditeurs. Ce n'est pas chez tout le monde.
Bien sûr.
Il y a plein de femmes qui traversent la grossesse sans dépression. On pourrait dire déjà que la dépression de la grossesse, même si elle est pénible à vivre, elle est aussi un temps de maturation psychique important, et elle alerte sur le fait qu'il y a des choses qui sont compliquées et qui nécessitent de l'aide. Il me semble que si une dépression prénatale, anténatale, conduit une femme chez un psy et qu'elle y trouve un espace pour travailler, c'est plutôt une bonne chose. Mmh. Ce qui est embêtant, c'est quand ça ne la conduit qu'à se replier sur elle et à souffrir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maturation psychique? D'abord, on considère que la grossesse et la naissance d'un enfant, c'est une étape un peu ultime dans la maturation psychique d'une femme. On le dit comme ça, c'est des choses qui se racontent. Alors, c'est en référence à toutes ces étapes qu'on franchit quand on est enfant, parce qu'il faut bien imaginer qu'on passe de l'état du nourrisson totalement dépendant à ses parents, et c'est pas rien d'être dépendant de l'autre. Un bébé, si on s'en occupe pas, il ne survit pas. Donc on passe de cette étape-là au moment où la petite fille doit apprendre à se séparer de ce qu'elle aime, apprendre à se séparer psychiquement, c'est-à-dire pouvoir dire non, pouvoir dire que oui, vous aimez les haricots verts, mais moi je préfère les raviolis, ce qui est évidemment un exemple. Pouvoir faire le tri entre ses désirs et ceux des autres, Hein, tout le monde veut que je fasse de la danse, mais moi, là où je m'éclate, c'est au rugby. Hein, voilà, enfin, c'est des choses comme ça. Donc, c'est déjà une étape importante. Et puis, toutes ces étapes tout au long de l'enfance pour oser prendre la parole, tenir la parole, grandir au milieu des autres, conquérir le monde, enfin, toutes ces choses-là. On considère que, souvent, on considère en tout cas que la grossesse, ce serait un moment où on parachèverait ce développement-là. Ce développement psychique, pour arriver à cette chose totalement inversée qui est qu'on va avoir un bébé dépendant de soi. Hein, c'est-à-dire que c'est quand même un sacré parcours. Et cette dépendance même peut être un facteur de dépression, parce que la dépendance du nourrisson, pendant la grossesse, il est complètement dépendant de ce que fait sa mère. Hein. Concrètement, si elle se met à s'alcooliser et à ne pas dormir, le nourrisson va en avoir des retentissements. Mais évidemment, dans le postpartum, ça crée une grande responsabilité. Hein, souvent, il s'agit de se préparer à cette responsabilité-là. Alors, la maturation psychique de la grossesse, schématiquement, on dit souvent, dans un premier temps, que c'est un « je suis enceinte ». Donc, « je suis enceinte », ça porte l'attention sur le corps, sur l'enceinte, qui est quelque chose un peu de fermé que constituerait ce ventre, une espèce d'enceinte protectrice pour le bébé. Donc, « je suis enceinte ». Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la grossesse, c'est vraiment très schématique, et je pense que personne ne traverse ça de cette manière-là, mais c'est quelque chose qui s'ouvre, c'est-à-dire j'attends un enfant. Donc là, commence à venir tout un travail de rêverie, alors plus ou moins, hein, pas chez toutes les mères, mais un travail de rêverie où on commence à essayer de s'imaginer avec ce bébé. Quand on achète le premier petit body et qu'on voit qu'il est minuscule, d'un seul coup, on tombe de l'escabeau, on dit « ah oui, d'accord, ça va vraiment être comme ça ». On s'imagine dans certaines situations, mais ce qui est assez typique, c'est que rarement on imagine le bébé lui-même. Hein, on s'imagine avec le bébé, mais à moins de subir des échographies très précises en permanence, personne ne visualise vraiment un visage de bébé. Ça reste du registre du mystère. Et puis, dans la dernière étape, il y a quelque chose un peu plus élargi qui est « je suis enceinte de un tel hein, ». Voilà, ou avec un tel, en tout cas. C'est-à-dire que quelque chose s'ouvre qui va faire qu'on ne va pas pouvoir se contenter d'être enceinte et d'avoir un bébé, mais il va falloir le partager. Avec l'autre de la famille, avec le monde, avec l'école, plus tard, etc. Donc là, il y a tout un travail de maturation. Je reviens sur cette histoire de rêverie maternelle, parce que c'est un point important, et en même temps, on sait que beaucoup de femmes n'y accèdent pas. Pour pouvoir accéder à la rêverie maternelle, justement, il faut être serein, il faut être tranquille, il faut ne pas avoir peur de perdre le bébé en cours de route. Je pense notamment aux femmes qui subissent des examens prénataux très inquiétants, où il faut attendre le résultat d'un cardiotype pendant parfois plusieurs jours, plusieurs semaines. On peut voir une sorte de gel de cette rêverie, de cette possibilité de s'imaginer le bébé, donc et parfois de l'investir. Voilà. Et cette rêverie, elle est constitutive d'un devenir mère, au fond. Elle permet de se préparer à ça, et on voit d'ailleurs que chez certaines mères, quand il n'y a pas eu trop de rêverie anténatale, ça ne facilite pas l'investissement du bébé réel qu'on va recevoir.
Oui, donc la rêverie, elle est importante dans ce processus élaboratif du devenir mère.
Alors, il y a la rêverie, absolument, qui est dans cette optique-là. Et il y a d'autres choses qui sont importantes. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle la transparence psychique de la grossesse. Alors c'est une notion qu'on entend souvent, alors qui n'est pas si simple que ça. La transparence psychique de la grossesse, qu'est-ce que c'est ? C'est une psychiatre psychanalyste, Monique Bidlowski, qui avait théorisé ça parce qu'elle avait remarqué que quand elle avait des patientes ou des analysantes en traitement qui devenaient enceintes, il y avait soudain un peu plus accessible d'émotions inconscientes qui revenaient, qui traversaient le discours de ces femmes, comme si la grossesse leur permettait d'accéder à des parts inconscientes qui, le reste du temps, étaient bien gardées, bien protégées. Simplement, on se rend compte que c'est pas si simple parce que ces parts inconscientes, elles sont accessibles parfois par le thérapeute, mais ça veut pas dire que la mère en a vraiment conscience. Ça veut dire que ça peut venir plus facilement dans le discours, mais que au fond, s'il y a pas quelqu'un pour recevoir ce discours, pour l'entendre, pour le restituer, ça va rester du registre de l'inconscient. Mais il n'empêche que ça affleure. Alors ça produit quelque chose d'important, qui est que dans cette période-là de la grossesse, il y a beaucoup de souvenirs qui vont remonter. Comme si pour devenir mère, on devait faire retour sur l'enfance qu'on avait eue. Alors, les parents d'enfants plus grands, ils connaissent bien ça. Quand vous inscrivez votre enfant à l'école maternelle et que vous l'amenez le premier jour, vous retournez littéralement dans vos souvenirs d'enfants maternels. Voilà. Et puis, quand il rentre au CP, là, ça, soudain, vous vous souvenez de la tête de votre maîtresse de CP et du livre de lecture, etc. Mais dès la grossesse, il y a des choses de ce registre-là. Et c'est tout à fait nécessaire parce qu'on a l'idée que ça permet à la future mère d'aller plus au contact de ses émotions de bébé, de ses sensations, de ses premiers souvenirs, et du coup de se rendre plus accessible au nourrisson qu'elle va avoir. Donc ça se joue à cet endroit-là. Et puis il y a un autre aspect très important de la vie psychique de la grossesse, qui est ce que Winnicott, le psychanalyste anglais, a appelé la préoccupation maternelle primaire, qui intervient dès les premières semaines ou les dès les dernières semaines de la grossesse, pas les premières. C'est-à-dire, on peut dire dans les premiers mois, on est un peu tranquille, et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans la grossesse, il va y avoir comme ça une préoccupation de plus en plus centrée sur le bébé à venir, et ensuite, après la naissance, particulièrement centrée sur le nourrisson, qui fait que parfois, on ne reconnaît pas ses copines quand elles viennent d'avoir un bébé. Parce qu'il n'y en a plus que pour le bébé, vous êtes invité à dîner chez eux, mais en fait, les deux parents, ils sont totalement centrés sur le bébé. On ne parle que du bébé, et puis ils se lèvent soudain, en plein milieu du repas, parce qu'ils ont entendu le bébé bouger dans la chambre, vous voyez. C'est des choses de ce registre-là. Alors, la transparence psychique et la préoccupation maternelle primaire, elles poussent la mère à un état, on pourrait dire, de régression psychique, mais aussi de régression des sensations, qui les prépare précisément à pouvoir accueillir un enfant dans ce qu'il a de plus corporel, de plus archaïque, hein, et de pouvoir se projeter à la place de ce bébé. Hein, c'est-à-dire, il faut pouvoir être attentif à ses propres sensations et à ce qu'on a hérité de soi enfant, pour pouvoir repérer que son bébé est très mal installé, par exemple, dans la poussette, qu'il a les fesses plus hautes que la tête, et que, vous voyez, ça, c'est des choses comme ça, ou pouvoir lui prêter des pensées, des intentions, des désirs, des besoins, etc.
C'est très intéressant. En tout cas, vous expliquez bien là comment tous ces processus préparent la mère, en effet, à accueillir son bébé, à pouvoir répondre de la manière la plus adaptée à ses besoins, et donc, on entend bien en arrière-fond comment aussi tout ça, ça va venir soutenir l'investissement, l'attachement, la relation pour que le bébé aille bien, la mère aille bien, mais le bébé aille bien et que la dyade fonctionne bien. Et du coup, on entend aussi dans tout ce que vous dites, quand ça ne se passe pas, comment ça va venir du coup perturber à la fois la mère, le bébé et puis la relation.
Oui, on peut penser en tout cas que ça n'aide pas à se préparer, mais je ne serais pas si catégorique au sens où j'ai tendance à penser que si une femme n'accède pas à ces rêveries-là et à ce travail psychique-là pendant la grossesse, c'est qu'il y a des raisons. Et donc il ne s'agit pas de l'imposer, comme par exemple on ferait passer un examen où il faudrait qu'elle ait rêvé à son bébé pendant tant d'heures et qu'elle ait traversé toutes les étapes, mais il y a des raisons et ça m'intéresse beaucoup dans ma pratique ce que sont ces raisons pour ces femmes, parce qu'on ne va pas leur faire une injonction de rêverie en fait,
hein, bien sûr.
Donc il s'agit plutôt de saisir pourquoi telle femme qui vient parler au cabinet de ce qui se passe pour elle dans la grossesse, ne peut par exemple absolument pas parler du futur bébé. Parce que dans les manuels, les femmes, pendant la grossesse, elles parlent du bébé. Mais dans la réalité, la plupart du temps, elles ne parlent pas du tout de ça. Elles parlent de leur ventre, elles parlent de leurs examens prénataux, elles parlent de leur suivi, elles parlent de leur couple, elles parlent de leur enfance. Mais finalement, le bébé du ventre, il n'est pas beaucoup là. Parfois, moi, je tends des perches, donc ça permet d'en parler un petit peu. Mais on pourrait même dire que plus les mères sont mal, moins elles vont en parler. Certaines, je me souviens d'une femme qui m'avait dit « Mais moi, je ne vous en parle pas », parce que j'avais quand même, au bout d'un moment, j'avais fini par poser la question. Elle avait eu un mouvement de révolte qui m'avait étonnée. Et j'avais compris après pourquoi, parce que le matin même, elle était allée voir la sage-femme qui lui avait beaucoup demandé de parler du bébé qu'elle avait dans le ventre, etc. Alors qu'elle s'y refusait complètement. Et moi, je tends une petite perche pour ça. Et alors là, j'ai eu tout ce qu'elle n'a pas pu dire à la sage-femme, à savoir, si je vous parle du bébé en étant si angoissée, ça va remplir le bébé d'angoisse. Voilà comment elle disait les choses. Comme si, au fond, pour elle, qui était très angoissée de beaucoup de choses pendant cette grossesse, ne pas me parler du bébé, ne pas penser au bébé, c'était épargner le bébé. C'était le mettre dans une case où l'angoisse ne pénétrait pas.
Oui, le protéger.
Voilà. Donc on a à être aussi très prudent avec nos théories quand on reçoit quelqu'un et à apprendre d'abord à le connaître avant de... Voilà, l'idée quand on reçoit quelqu'un, c'est pas de le normer. C'est de l'attraper tel qu'il est.
Oui, en tout cas, cette idée d'aller comprendre qu'est-ce qui fait qu'il n'y aurait pas de transparence psychique, de rêverie, de préoccupation maternelle qui arrive. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue là, vous, dans votre clinique? Qu'est-ce que vous pouvez observer, du coup, des causes?
Pour certaines personnes, il s'agit d'abord de lutter contre l'angoisse, que la venue psychique du bébé pourrait générer, par exemple. Je pense à une jeune femme qui a longtemps traversé, pendant une bonne partie de sa grossesse, elle la traversait sans affect. Et donc c'était très étonnant parce qu'au fond, elle était enceinte, mais c'est... Enfin, j'en venais à l'oublier, cette grossesse, tant qu'elle ne se voyait pas. Et elle ne m'en parlait absolument pas, en fait. C'est quelqu'un que je voyais déjà auparavant. Et c'est tardivement dans la grossesse qu'elle a pu fortuitement, parce que dans son entourage, on commençait beaucoup à lui parler du bébé, elle a pu fortuitement laisser émerger des choses de sa propre histoire, hein, qui étaient très douloureuses, notamment autour d'agressions sexuelles qu'elle avait subies enfant. Et qui faisait que ne pas penser au bébé, c'était ne pas penser à ce qui allait se passer pour ce bébé et comment elle allait l'accueillir et comment elle allait faire pour le protéger. Et alors, cette femme, mordicus, elle refusait de savoir le sexe du bébé. Elle ne voulait pas savoir jusqu'à l'accouchement, alors c'est tout à fait recevable, mais elle avait pu me dire à un moment donné, tardivement, qu'au fond, elle était dans une impasse complète avec le sexe du bébé, parce que dans sa tête, une fois que le traumatisme sexuel était revenu à la surface, dans sa tête, attendre une fille, c'était courir le danger d'avoir une fille qui pourrait se faire agresser. Donc comment allait-elle faire, elle, pour protéger cette fille pour qu'elle ne soit pas agressée, puisque sa propre mère n'avait pas pu la protéger. Et à l'inverse, avoir un garçon, c'était courir le risque d'avoir un futur agresseur. Donc quelle responsabilité pour élever un garçon pour que ça n'arrive pas, vous voyez. On voit déjà comment le poids d'une responsabilité gigantesque était sur les épaules de cette mère qui faisait que il fallait surtout pas penser le bébé en amont. On pourrait dire aussi que si une mère n'a pas fait cette rêverie en anténatale, c'est pas une catastrophe en fait. Tout est rattrapable. C'est pas comme les livres, tout se passe avant 7 ans, tout se passe avant 3 ans ou tout se passe avant la semaine dernière. Ça va. Voilà, les choses se remettront au travail en postnatal.
Oui, que chacune a un rythme qui est différent. Que l'important, c'est la question du mouvement.
Absolument. Et puis c'est la question aussi de l'opportunité de travailler les choses. Qu'il y ait quelqu'un qui vous tende une perche, qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'entendre les choses qu'on traverse, c'est pas mal. Et c'est pas toujours possible.
Malheureusement. Pour revenir sur cette question des causes de la dépression prénatale, Alors là, dans ce que vous venez de nous dire, on peut émettre cette hypothèse de la question transgénérationnelle, de réactivation de relations précoces difficiles, par exemple. Est-ce que c'est des choses que vous retrouvez dans votre clinique ?
Oui, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Ce sont des relations difficiles précocement, des mères en... des futures mères ou des mères qui sont très en difficulté aujourd'hui encore avec leur propre mère ou avec leurs parents et avec lesquels c'est compliqué de composer. Voilà, l'histoire du sujet en général est au premier plan dans le postpartum. Mmh. Et alors on la voit arriver parfois dès la grossesse dans des petites phrases discrètes comme « je pourrais pas compter sur mes parents pour s'en occuper » ou « ou ils sont loin mais tant mieux », des choses comme ça, ou des regrets, c'est-à-dire « j'aurais tellement voulu que ma mère puisse m'aider dans le moment que je traverse, mais... on ne peut pas compter sur elle, ou elle va me faire des réflexions, ou pire, pour elle, on ne doit pas se laisser aller à la dépression parce que c'est de la faiblesse. Vous voyez, ces espèces d'idées reçues sur la dépression qui seraient synonymes de faiblesse, alors qu'on pourrait dire à l'inverse que pouvoir traverser un mouvement dépressif, ce n'est pas du tout de la faiblesse, c'est du courage.
Mmh. D'ailleurs, beaucoup de femmes disent, une fois que ça va mieux, que cette transformation, finalement, leur fait accéder à une autre part de leur identité et qu'il y a quelque chose qui peut être source de satisfaction ou d'une découverte qui peut être belle aussi.
Oui, bien sûr. Beaucoup vont, d'ailleurs, cette transformation, c'est parfois une subjectivation, c'est-à-dire que certaines ont subi longtemps des choses dans leur relation avec l'autre, dans leur relation de travail aussi, dans le lien avec leurs parents, par exemple. Et le travail psychique fait à l'occasion d'une dépression autour de la naissance va leur permettre de se redresser comme sujet et de plus subir et de trouver une autre position qui permet de plus prendre les coups. Pas pour autant de les donner, mais voilà, trouver une position, une distance nécessaire. Donc c'est vraiment pas du temps perdu hein, de travailler sur soi à cette occasion.
Est-ce qu'il y a d'autres causes à la dépression prénatale que vous pouvez observer ?
Alors, il y a les antécédents familiaux, les antécédents personnels, tout ce qui peut être considéré comme des troubles psychiques antérieurs à la grossesse, hein, qui doivent... Là, vraiment, il faut qu'on accompagne ces mères. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre de d'habitudes toxiques, tels que le tabac, tels que l'alcool, tels que des dépendances, qui doivent être accompagnées aussi parce qu'elles ne sont pas sans répercussion sur la grossesse elle-même. Mais voilà, je pense qu'on a dit à peu près l'essentiel. Alors, il y a évidemment tout ce qui est grossesse compliquée. Je pense à une jeune femme qui a un diabète, non pas gestationnel, mais un diabète insulinodépendant, qui a traversé une grossesse terrible. La première fois qu'elle est venue me voir, elle n'a pu que raconter un parcours d'examen à n'en plus finir, hyper médicalisé. L'hypermédicalisation de la grossesse, même si elle a toujours une bonne raison pour la santé de la mère ou de l'enfant, elle peut être vécue comme une sorte de dépossession, au fond, où la mère a le sentiment de n'être qu'un corps au service de la médecine et non l'inverse. Voilà. Et là, aussi, c'est vraiment important d'accompagner ces mères pour que le travail psychique puisse se faire aussi et qu'elles ne soient pas juste là des glycémies et des bandelettes à surveiller.
Est-ce que les pères traversent aussi ce bouleversement identitaire, psychique, ces mouvements dont vous nous avez parlé ?
Oui, il y a des mouvements, des mouvements chez les pères. Alors, ils peuvent être tout à fait discrets ou tout à fait sensationnels. Hein. On sait que devenir père, ça bouleverse beaucoup de choses chez certains hommes. Je dirais même, et c'est comme pour les mères, au fond, particulièrement quand ils ont eu affaire à des pères compliqués. Certains hommes sont rongés dès la grossesse par l'inquiétude. Je veux pas être un père comme était mon père, ou je voudrais pouvoir être à la hauteur du père que j'ai eu, etc. De même que certaines femmes ne peuvent pas du tout s'identifier à leur propre mère pour devenir mère. Voilà, certains vont aller jusqu'à effectivement des mouvements dépressifs. Bon, j'en ai effectivement croisé, y compris des mouvements dépressifs sévères. Ils ont la chance quand même, pour certains en tout cas, de travailler, donc de pouvoir s'échapper un peu de cette ambiance-là, et notamment dans le postpartum, le fait de retourner au travail pour un père, même si certains revendiquent effectivement la possibilité de rester auprès du bébé, mais pour certains c'est un soulagement, comme pour certaines mères aussi ça peut être un soulagement. Donc il y a cette tentation un peu de la fuite. On sait aussi que c'est dans le temps de la grossesse et du postpartum qu'on voit émerger de l'agressivité chez certains hommes, et une agressivité qui peut aller jusqu'à la rivalité avec le bébé, jusqu'à agresser le ventre de la mère par exemple, donc qui montre qu'ils sont vraiment pas bien. Alors évidemment, la première chose, c'est de protéger la mère, mais il s'agit aussi de proposer quelque chose à ces hommes qui sont en train de partir à la dérive. Il n'y a pas de possibilité, au fond, de devenir parent sans qu'il y ait une crise de maturation. Et c'est vrai aussi pour les couples de femmes, même celles qui ne portent pas l'enfant, elle est dans un processus d'acceptation de tous ces changements et de préparation psychique.
Oui, donc eux aussi peuvent être évidemment traversés parfois cette dépression prénatale.
Et ils peuvent être aussi très impactés par la dépression de leur compagne. C'est-à-dire que c'est pas rien pour une jeune femme dans son entourage de devoir dire ce qu'elle ressent, de se manifester ainsi. L'entourage n'a pas envie de voir et de savoir ça, y compris le compagnon. Donc il peut ne pas comprendre, ou trouver que ça dure un peu trop, ou trouver qu'elle fait de la comédie, ce qui sont des manières de se défendre en fait de la dépression. Il y a un petit côté un peu contagieux de la dépression. Quand quelqu'un pleure, on a envie de pleurer avec. Et puis au bout d'un moment, on s'énerve. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est... c'est le moment de rappeler à tout l'entourage d'une personne dépressive que ça n'a jamais guéri la dépression de se secouer, ni de boire de l'alcool, ni de sortir faire la fête. Je veux dire, c'est quand on a une jambe cassée, on sort pas danser. Ben voilà, une dépression, c'est comme une jambe cassée, mais c'est une jambe intérieure, on tient plus debout. Voilà, certaines personnes dans l'entourage ne vont pas pouvoir recevoir cette dépression, probablement parce que ça excite un peu leur propre tendance dépressive et leur propre peur de s'effondrer. La peur de l'effondrement, c'est quelque chose qu'on se trimballe toute la vie quand même.
Oui, donc là, d'où l'importance d'aller trouver d'autres ressources quand, au sein de l'environnement proche, ça n'est pas possible.
Oui, parce que en plus de ça, ça va attiser les conflits de couple, cette histoire-là. C'est un des effets des dépressions anténatales, c'est qu'il peut y avoir plus de conflits dans les couples, moins de facilité à se comprendre. Voilà, on sait qu'il y a aussi des couples qui se séparent pendant la grossesse, qui peut d'ailleurs être un facteur de dépression en soi.
Tout à fait.
J'ai pas parlé, parce que c'est tellement évident pour moi, mais dans les facteurs de risque de dépression de la grossesse, il y a tout ce qui a à voir avec, j'en ai parlé un tout petit peu, mais avec les deuils périnataux qui ont pu être vécus antérieurement. Avoir perdu un enfant dans une grossesse antérieure, ou l'avoir perdu juste après la naissance ou quelques semaines après, ça fait que c'est une famille en deuil, en fait, qui accueille un nouvel enfant. Et là, moi, j'invite vraiment à travailler sur ces questions-là et à faire une place à l'enfant mort, une place physique et une place symbolique, pour qu'il n'envahisse pas tout. Et pour notamment qu'il laisse de la place au nouveau bébé. Et ça se travaille très bien. Il y a beaucoup de psychologues qui travaillent sur le deuil périnatal et qui permettent justement que chaque enfant ait sa place.
Sa juste place, tout à fait. Quel va être, Françoise, l'impact de la dépression prénatale, que ça soit alors chez la mère, chez le bébé? Là, vous nous parliez de l'impact pour le conjoint, voilà, dans cet effet un peu de transmission, ou en tout cas, voilà, la difficulté que ça peut être dans ce contexte-là. Mais voilà, pour la mère, pour l'enfant, peut-être pour la relation.
Alors, pour la mère, déjà, de manière très pragmatique, une dépression, ça empêche de se prendre en charge correctement, physiquement déjà. Donc ça veut dire plus d'isolement, des grossesses peut-être moins bien suivies, avec des examens qui vont manquer, pas le courage d'aller aux séances de préparation à la naissance, par exemple, ça peut être des choses comme ça. Le risque, on le connaît, de menaces d'accouchement prématuré, parce que la grossesse est moins bien suivie, ou parce que la mère a trop d'angoisse, et que le stress qui est provoqué par l'angoisse peuvent avoir des effets sur la grossesse, sur l'utérus, etc. C'est un effet aussi qu'on connaît, même s'il faut rester très prudent, d'abord parce qu'il s'agit à la fois de dire les choses et en même temps de ne pas inquiéter les mères, parce que c'est pas... pas une vérité vraie là-dessus, mais on sait que une mère qui a beaucoup d'angoisse pendant la grossesse, elle va produire beaucoup de cortisol, qui est l'hormone liée au stress, et que si l'enfant est bombardé de cortisol, ça n'est pas sans effet sur son développement cérébral. Donc il y a des études, donc là aussi il faut être très prudent, des études qui montrent par exemple que des cohortes de femmes à qui on a fait passer des tests tout au long de la grossesse pour savoir leur niveau de stress, d'angoisse, etc., et qu'on a suivi ensuite, jusqu'aux 4 ans de l'enfant, montre que chez celles qui avaient le plus d'angoisse, il y a souvent plus d'enfants un peu plus agités ou un peu ou avec des petits troubles de comportement. Mais ça, c'est ce que disent les statistiques. Ce que dit la clinique quand on rencontre des mères, on est parfois tout à fait surpris, c'est-à-dire on rencontre des mères qui, de leur propre aveu, ont eu des grossesses très compliquées, avec beaucoup d'événements stressants, des deuils, des déménagements, des licenciements, enfin vraiment plein d'événements susceptibles de produire du stress. Et elles viennent avec un bébé tranquillou, qui joue, qui est vraiment bien dans le lien et qui n'est pas du tout inquiétant.
Oui, donc il y a la question du niveau de stress vécu et puis la manière dont celui-ci va être régulé. C'est-à-dire qu'on peut vivre des événements très stressants et pourtant arriver à se réguler.
Et absolument. Et du coup, c'est aussi la question, pas seulement du niveau de stress, mais de la durée du stress qui compte. Mais voilà, il y a une inégalité de toute façon physiologique, on ne sait pas bien pourquoi, mais d'abord on sait bien, d'un bébé à l'autre, avec le sentiment d'avoir vécu la même grossesse, on n'a pas du tout le même bébé, même on a l'impression de les avoir élevés pareil, ils ne sont pas du tout pareils, enfin voilà. Donc tout n'est pas biologique et tout n'est pas génétique dans ces histoires-là, et il ne s'agit pas de trop inquiéter ou de culpabiliser les mères, parce que d'abord elles n'ont pas choisi d'avoir une dépression. Personne ne choisit d'avoir une dépression. La seule chose qu'on peut choisir, c'est de se soigner. Mais je rappelle que dans la dépression, il y a une part qui empêche de se soigner. Puisque la dépression, elle contient en elle-même l'idée que c'est de sa faute si on va mal, et que c'est pas une maladie, et qu'on pourra rien y faire. Ça fait vraiment partie des signes de la dépression. Et donc, il faut lutter pour pouvoir se sortir de ça et demander de l'aide. Les gens qui pensent que les personnes qui font une dépression sont paresseux ou sans volonté, ils n'ont pas traversé ça, donc ils ne savent pas de quoi ils parlent.
Ce n'est pas du tout une histoire de volonté.
Non.
Quels vont être les impacts pour le bébé ?
Donc il y a cet impact-là du stress lié au cortisol. Après, il peut y avoir un impact qui est difficilement mesurable, mais qui, dans le fait que la mère va peut se préparer à devenir mère, donc on peut imaginer que ça va être compliqué dans les premières rencontres, qu'il va y avoir plus de flottement, mais bon, voilà. Et puis il y a le risque, un double risque, soit une mère très agitée parce que l'angoisse l'agite et qu'elle part dans tous les sens, un peu comme dans la dépression masquée, qu'elle est très excitée et que le bébé n'est jamais en repos, ou à l'inverse, une mère très en repli qui ne va pas forcément d'ailleurs parler au bébé,
Alors ça, c'est encore une grande injonction.
Mais là, du coup, vous nous dites si la dépression se poursuit dans le postpartum.
Alors, je parle de la dépression prénatale, c'est-à-dire le bébé, il est investi par la pensée, mais arrivé à un moment donné, il peut être investi parce qu'on caresse son ventre, parce que on parle au bébé quand il commence à s'agiter, et on sait que le bébé est sensible à la voix de sa mère. Il y a des enregistrements du cœur du bébé qui montrent tout à fait qu'il réagit de manière tout à fait différenciée quand c'est sa mère qui lui parle. Donc, on peut penser que le lien anténatal se crée plus difficilement quand il y a une dépression, même si certaines femmes vont dépasser ça pour pouvoir être avec leur bébé, y penser malgré la dépression. Mais voilà, ce sont des aspects de ce style qui peuvent en effet se poursuivre dans le postpartum. C'est-à-dire que finalement, une dépression anténatale qui se poursuit dans le postpartum, c'est quand même pas très bénéfique pour un bébé qui, d'entrée de jeu, va avoir affaire à une mère qui a du mal à s'occuper de lui, qui est triste, qui est peu expressive, qui a une voix un peu plus monocorde. C'est ce qu'on voit souvent dans la dépression. Donc, je le redis, accoucher ne guérit pas la dépression anténatale.
Alors justement, qu'est-ce qui la guérit, ou en tout cas, qu'est-ce qui permet d'aller mieux, voilà. Quelles recommandations vous feriez aux femmes qui nous écoutent et qui peut-être se retrouvent dans cette situation ?
Alors d'abord, de ne pas rester seule, de trouver des partenaires pour parler de ça. Alors, quand on est en ville, c'est un peu plus facile de trouver soit des associations type la cause des parents, la maison de la parentalité, il y a ça dans les grandes villes. Moi, je recommande presque d'entrée de jeu d'aller voir le forum de Maman Blues. Maman Blues, ce sont des femmes qui ont traversé soit des dépressions du postpartum ou d'autres pathologies psychiques du postpartum, ce qu'elles appellent des difficultés maternelles, parfois dès la grossesse, et elles ont monté un forum, elles sont très actives, elles ont beaucoup réfléchi à ces questions-là, elles sont très investies dans le travail de périnatalité dans ce pays, et elles font aussi parfois des groupes de parole locaux. Et surtout, elles organisent un forum où des mères en difficulté ou des futures mères en difficulté peuvent venir parler anonymement de leurs difficultés, mais peuvent aussi contacter les responsables de l'association qui ont, et c'est très précieux, un répertoire de tous les psys qui s'occupent de périnatalité au niveau national. Donc déjà, si on ne veut pas atterrir chez quelqu'un qui n'a jamais vu de mère avec un bébé, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, on peut déjà s'adresser auprès de ces personnes. On peut bien sûr s'adresser à la PMI de son secteur. Il y a en principe, je dis bien en principe parce que de nos jours, les PMI sont aussi mal en point que l'hôpital public, mais il y a en principe des psychologues en PMI qui peuvent vous recevoir et vous orienter éventuellement. Il y a les psychologues de la maternité, quand il y en a. Alors parfois, elles ne peuvent pas recevoir, mais elles ont des adresses, elles peuvent réadresser. Il y a dans beaucoup de villes ce qu'on appelle des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, parents-bébés. Alors, souvent, ça dépend des centres médico-psychologiques. Alors, autant au centre médico-psychologique, c'est souvent très difficile d'obtenir un rendez-vous rapidement, autant dans les centres parents-bébés, ça va souvent assez vite. Parfois, on peut avoir un rendez-vous dans la semaine avec une infirmière, une psychologue, une pédopsychiatre, pour commencer à parler de ces difficultés et rencontrer éventuellement d'autres mères. Voilà. Et puis, évidemment, on peut frapper à la porte de son psychologue préféré pour y trouver une aide précise dans la parole. Je dis bien du côté de la parole, parce que tous les psychologues ne pratiquent pas le travail de la parole. Pour certains, il y a d'autres techniques. Et moi, il me semble que dans ce temps de la grossesse, il y a des choses qui cherchent à se dire. De l'histoire du sujet, de sa souffrance antérieure, de la manière dont il s'est organisé psychiquement dans la vie. Et tout ça est bouleversé et ça nécessite quelqu'un pour accueillir et évidemment parler. Il faut quelqu'un qui soit capable d'accueillir mais aussi de parler. Parfois ça ne suffit pas, donc il ne faut pas hésiter aussi à avoir recours à un traitement. Alors, c'est pas les psychologues qui vont évidemment donner les traitements, mais certains médecins généralistes peuvent tout à fait donner un traitement en première intention, un traitement antidépresseur. Là encore, il y a des relais qui permettent de vérifier que le traitement qu'on va donner n'est pas interdit pendant la grossesse, qu'il n'est pas tératogène, etc. Il y a des études très précises qui ont été menées. Je crois que c'est le CRAT ou un truc comme ça.
Sur le site du CRAT, en effet, on peut vérifier le traitement, s'il est compatible avec la grossesse, et il propose des alternatives. Voilà.
Et c'est également vrai pour l'allaitement dans le postpartum. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un traitement qui pourrait être poursuivi pendant l'allaitement, par exemple.
Tout à fait.
Voilà, ça c'est des...
Donc là, vous avez bien identifié tous les partenaires, en tout cas tous les professionnels auxquels la femme et aussi son conjoint, sa conjointe peuvent s'adresser. Peut-être on pourrait dire un petit mot de la question de l'entretien prénatal.
Oui, le fameux entretien prénatal. Oui, c'est important parce que c'est un entretien qui est obligatoire. Donc chaque femme enceinte est censée passer cet entretien, en principe auprès d'une sage-femme. Et c'est très important de pas le bâcler, cet entretien, parce que c'est la seule occasion qui est donnée aux femmes enceintes, finalement, directement, de parler de comment elles se sentent, de leur vie psychique, de leurs inquiétudes, etc. Donc, il faut pas hésiter à y aller et à dire un peu les choses qu'on ressent. Alors, évidemment, c'est un peu inégal selon la personne sur laquelle on tombe. Hein. Il y a des sages-femmes qui sont bien formées à cette question-là et qui vont pouvoir, comme je disais tout à l'heure, accueillir la parole et ne pas minimiser une souffrance. Il y en a d'autres qui ont plus de mal. Alors, ça donne pas les mêmes effets, mais ça n'empêche qu'on peut quand même s'appuyer sur elles si on se sent pas bien, pour demander des relais, pour demander qui je pourrais aller voir. Donc cet entretien, il vise en principe à vérifier qu'une femme enceinte n'est pas atteinte de souffrances psychiques qui pourraient faire qu'elle soit mal pendant l'accouchement ou dans le postpartum. Alors pour beaucoup de femmes, c'est très utile parce que ça permet de parler de l'angoisse de l'accouchement, par exemple. Vous voyez, ça peut être et l'angoisse de l'accouchement peut déboucher sur d'autres angoisses. Donc ça peut être un fil qu'on peut tirer. En tout cas, si on avait quelque chose à dire à ces sages-femmes qui font ce travail-là, c'est vraiment de prendre le temps d'entendre et de pas minimiser ni banaliser et pas chercher à répondre. C'est ce grand défaut qu'on a quand on voit un problème, c'est qu'on voudrait vite recouvrir le problème d'une grosse couche bien épaisse pour qu'on le voit plus. Alors qu'en fait, s'il se dit là, c'est vraiment une chance.
En tout cas, pour conclure notre échange, Françoise, j'ai vraiment envie de dire aux femmes qui nous écoutent que si elles sont dans cette situation, de ne pas hésiter à trouver un professionnel, un proche qui saura les entendre, ne pas minimiser, qui ne minimisera pas, banalisera pas ce qu'elles vivent. Voilà, qu'il y a plein de personnes qui connaissent cette souffrance, qui savent l'accompagner, qui savent la prendre en charge et que ce n'est pas une fatalité. Voilà, que ça, les choses peuvent bouger et qu'il y a plein de choses à faire pour aller mieux et accueillir dans les meilleures conditions possibles son bébé.
Oui, c'est ni une fatalité ni une honte. On n'est pas faible parce qu'on traverse une dépression, parce que on n'est pas faible parce qu'on a un problème à la rotule. C'est comme ça. On accueille ça et on transforme.
Elles n'ont pas choisi de vivre ça.
Elles n'ont pas choisi de vivre ça. Et c'est très important, en effet, de les soutenir pour qu'elles vivent le mieux possible leur grossesse. C'est pas seulement pour le futur et pour l'enfant, c'est parce que c'est une grande souffrance.
Tout à fait.
Donc on a aussi à faire avec
le droit
ça.
De ne pas souffrir.
Ben oui.
Je recommande souvent des lectures à mes patients. Françoise, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander ?
Alors, je suis en train de lire Hystérique de Sophie Adriensen. Hystérique, ce sont trois femmes, l'une en train de devenir mère, l'une qui l'est déjà, l'autre, je crois, qui... Vraiment, je suis au tout début de ce livre, mais ça dépote. Et Sophie Adriensen, elle avait déjà écrit Linea Nigra, qui est un livre sur la grossesse et notamment sur la césarienne en lien avec donc un personnage qui a eu beaucoup de mal à vivre à vivre sa césarienne, qui a eu l'impression de ne pas accoucher. Donc je recommande vraiment ce livre, ces deux livres de Sophie Adriensen, Hystérique, avec une belle couverture rose, et Linea Nigra. Linea Nigra, vous savez, c'est cette ligne noire un peu plus sombre que les femmes ont sur le ventre pendant la grossesse et qui s'estompe après. Et donc un autre livre qui parle et de la grossesse et du postpartum, et c'est aussi de Sophie Adriensen. Okay. Qui est une auteure jeunesse très connue, mais qui écrit aussi sur la maternité.
Merci Françoise. Moi, je recommanderais « Toutes les femmes sauf une » de Maria Pourchet, qui est un essai autobiographique sur ce qu'elle a traversé durant sa grossesse et les liens avec la relation difficile qu'elle avait avec sa propre mère et tous les impacts que ça a eu pour elle autour de sa maternité. Un livre pas facile, un roman pas facile, mais très intéressant, et qui parlera certainement à beaucoup de femmes.
Et puis on peut parler aussi des deux livres de René Grezard, celui sur la grossesse, j'ai plus le titre, et l'autre non plus d'ailleurs.
Alors, le deuxième, c'est Choisir d'être mère.
Choisir d'être mère.
Voilà, René Grezard est venu nous en parler dans un épisode de parentalité.
D'accord.
Merci beaucoup Françoise pour tous vos éclairages et toutes ces informations très précieuses, parce que c'est important de parler de ce sujet pour aider les femmes à en parler et ne pas être dans la honte justement. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invitée.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter, et on se retrouve dans un prochain épisode.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.